Bonsoir à tous et bienvenue pour ce traditionnel podcast du lundi de Folia Liga. Au programme ce soir, un spécial Lorca et les débuts de Luis Enrique qui ne pouvait pas se passer mieux avec une victoire 2-1 à Wembley. On va parler donc de ce match, on va faire un petit débrief. On va parler du prochain 11, de la prochaine liste et aussi de la presse qui est plus bouillante que jamais et qui espère de nouveau que la Lorca va redevenir impériale. Pour m'accompagner ce soir, elle a deux défauts, c'est qu'elle est gardoise et qu'elle habite dans l'Hérault, ou vice-versa. Cécile Rodrigo, bonsoir.
Bonsoir, c'est pas des défauts.
Cette phrase était sponsorisée par l'amicale bucco-rhodanienne.
Qu'est-ce qui t'en fait, les gars? Un jour, on discutera de tout ça.
Ouais, non, mais moi, je suis. Voilà, vive le 13.
Ouais.
Bref. On va
Passons.
parler de, on va parler de ce premier match de l'Asturien, de Zemocat et de la Rioja. Après le mondial calamiteux qui s'est achevé par une défaite au tir au but contre la Russie Payotte. T'en as pensé quoi, toi, de ce premier match qui a pas très très bien commencé pour la Rioja, puisqu'elle a encaissé une ouverture du score. On l'a vu du mieux, mais est-ce que ce 4-3-3 t'a plu?
Ben, on a vu du mieux parce que déjà Luis Enrique a quand même une philosophie un petit peu différente de celle de Lopetegui. Enrique, il veut quand même un jeu plus vertical. Luis Enrique plutôt. Il veut un jeu plus vertical. Donc forcément, il y a eu du mieux. Ça a moins tricoté, par exemple, on peut dire la possession stérile, parce que c'est vraiment ça qui a marqué en Russie. C'est cette possession qui a mené à rien. Donc là, il y a eu un petit peu du mieux, mais j'ai quand même des doutes sur ce 4-3-3 personnellement.
Parce que, par exemple, moi, ce qui m'a choqué, moi, par exemple, dans la compo, c'est de voir Rodrigo sur un côté et Aspas dans l'axe. Sachant que ce serait
Ouais.
plutôt l'inverse en club. Que Rodrigo, en plus à Valence, n'a jamais été très bon dans un 4-3-3. Il s'est révélé en 4-4-2 avec Marseille. Et Isco à gauche, qui n'a pas
Ouais,
été incroyable. Qui a été assez irrégulier, mais c'est. Je sais pas, moi je suis pas un grand fan du 4-3-3 déjà, de base, mais
Je crois pas que ce soit le mieux pour tous les joueurs qu'il a sélectionnés en fait.
c'est ça en fait,
Parce
oui.
que si tu prends même le milieu, Busquets, alors bon, je sais que du coup Busquets, on va en parler, mais du coup Busquets, il a jamais joué au final seul devant la défense avec la sélection au Barça, oui, mais au final avec l'Espagne, il a toujours eu Xabi Alonso à côté. À part donc là, après quand Xabi Alonso a pris sa retraite, mais dans les deux victoires de l'Espagne, du coup en 2010 et en 2012, il avait Xabi Alonso à ses côtés.
Ça faisait quand même une bonne béquille.
Ouais, et là du coup on le retrouve un petit peu tout seul, donc du coup on l'a associé avec Koke en Russie. Là c'était un petit peu avec Saoul, ce qui est pas mauvais moi je trouve personnellement. Hein,
Non, bah, Saoul a été un peu un
je trouve que
sacrifié.
Saoul il apporte beaucoup quand même, c'est un profil différent.
Oui, Saoul a été un peu le sacrifié de la Coupe du Monde.
Un peu
Et
beaucoup,
d'ailleurs,
oui.
après le match, ça parlait beaucoup de son absence. Je crois qu'il y a eu 0 minute dans le mondial. Et
Ouais,
ça
c'est
parlait.
ça, c'est
Bah,
ça.
c'est ça, c'est qu'il a passé son temps sur le banc. Et justement, la presse, beaucoup de journalistes. Alors, je vais citer Rebanyo, que j'aime beaucoup, qui travaille Eurosport Espagne, notamment, qui disait voilà, c'est comment on a pu se priver d'un tel joueur? Alors après, est-ce que c'est des choses de vestiaire? Est-ce que c'est Hierro et Celades qui ont un peu la trouille de le lancer?
Oui, moi je pense que Leroy, il avait peur de faire des tests entre guillemets. Je pense qu'il est un peu parti avec ses. Je pars avec mes certitudes et puis ça marchera comme ça, sauf que non.
Bah, le problème, c'est que là encore, je comprends. Enfin, c'est normal, il a voulu faire un peu des nouveaux choix et un peu des sacrifices, notamment Coquer et Sélection, qui, alors lui, a fait une très bonne entrée en matière
Oui.
mondiale avant de rater son match contre la Russie. Après un trou de deux matchs, ça avait été un peu n'importe quoi. Est-ce que tu crois que ce 4-3-3 ne devrait pas être changé par un 4-4-2? Alors, je vais préciser quand même, avant que tu répondes, qu'on a eu.
4-4-2 avec qui?
Je précise qu'on a eu une grosse discussion en interne parce que le groupe vit bien à Folia Liga sur changer de système. Alors, Benjamin Bruchet, qui j'espère nous écoute, est un grand fan du 4-4-2 à plat comme moi. Toi, tu serais plutôt, je crois que tu es plutôt 4-3-3. Elias Bailly est plutôt 4-3-3 aussi. Donc.
Je suis d'accord avec Elias dans le sens, moi, le système, à la limite, tu vois, il y a toujours moyen de redescendre Busquets pour faire une défense à 3 et si tu veux Carvajal et Bon, Alba, là, c'est pas Alba, mais j'espère quand même qu'on reviendra à Alba, hein, faut qu'on en parle. Mais y a, tu vois, le système, il y a toujours moyen de modifier. Mais je pense quand même vraiment qu'il faut un soutien à Busquets. Donc 4-4-2, oui, pourquoi pas.
Ou alors, oui, mais avec peut-être Isco qui redescend et qui n'est pas. Oui,
je pense qu'Isco, déjà, je pense qu'Isco, autant pour lui que pour l'Espagne, il faut qu'il redescende ce poste un peu de. Je suis attaquant, mais je redescends, je trouve que ça ne lui convient pas.
Est-ce que finalement l'Espagne ne gagnerait pas à le faire jouer milieu axial et complètement meneur de jeu?
Moi, je le mettrais milieu, Isco. Bon, après.
Axial.
Ouais.
C'est-à-dire, ouais, tu mettrais lui en 10 et deux pointes.
C'est ça. Ah oui, deux pointes, oui.
Ouais, parce qu'en fait, là-même, ils ont parlé de. En Espagne, ça parlait de faux numéro 9.
Oui, j'ai vu.
Parce que, oui, effectivement, Rodrigo, qui est plus un joueur. Il se balade hein, généralement sur le terrain, mais serait plutôt un joueur d'axe et à Aspas, vraiment, qui est beaucoup plus un joueur de côté. Ça reste un très bon buteur, mais ça a toujours été davantage un joueur de côté au Celta. Parce que, ouais, est-ce que finalement, on retombe avec peut-être le meilleur match de l'ère Lopetegui contre l'Italie?
Oui.
Avec ce faux numéro-là, j'avais.
Avec le grand Isco!
Avec le grand Isco, le grand David Silva. Les deux avaient fait deux grands matchs. Qui, pour moi, a été le trompe-l'œil absolu de l'ère Lopetegui, qui a bouffé dessus pendant un an, alors que c'était des portes de saloon qui avaient de Ventura. Qui après a montré le génie tactique qu'il était. Bref, de toute façon. Mais ce 4-2-4. Non, mais ce 4-2-4 italien était une blague intersidérale et forcément, face au buzzard qu'il y avait, notamment Verratti qui avait joué en marchand. Ouais, bon, l'Espagne s'était promenée, quoi. C'était vraiment.
Non, mais là où tu as raison, c'est que.
Il y a un choix de ne pas faire tactiquement et du coup, l'Espagne en a évidemment profité et Isco s'est régalé. Oui. Il donne de l'espace à Isco, c'est promenade, hein. Donc,
mais ce qu'il faut dire qu'on oublie un petit peu quand même, c'est que moi-même je l'avais oublié, on en avait discuté aussi, c'est que tout n'était pas si rose hein, dans l'ère Lopetegui. On a l'impression un petit peu que tout ce qui a perturbé la sélection, c'est l'histoire avec Rubiales, etc. Mais il y avait quand même, on voyait des petites choses qui gênaient quand sous Lopetegui, il y avait quand même des fois des grosses phases de possession stérile, comme on l'a vu à la Coupe du Monde. C'est vrai que tout le monde a en tête ce match contre l'Italie avec un Isco incroyable, etc. Mais il y avait quand même déjà des petits signes on n'était pas très optimiste quand même.
Oui,
donc ça veut dire que Luis Enrique il reconstruit quand même beaucoup. Il a quand même beaucoup à reconstruire.
Ouais, pour moi, je me rappelle surtout du match contre la Suisse, le dernier match à Villarreal, avec le 1-1, avec déjà la fébrilité de De Gea.
Oui.
Ça avait été, moi, je m'étais quasiment endormi devant la télé, quand même. Ça ronronnait déjà, ça se faisait, c'était des passes, ils avaient très peu tiré, et c'est Odrio Sola qui avait marqué, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Marqué en dehors de la
surface. Qui après n'a pas du tout joué, en Russie.
C'est ça. Donc, bon, c'était quand même assez prévisible qu'il ne joue pas, mais c'est vrai que déjà ce match-là, déjà les deux amicaux, même contre la Tunisie, c'était pas terrible. Donc c'était un peu étrange comme fin de règne. Alors sur le chat, nous avons Riril28 qu'on salue, c'est un régulier. Alors la philosophie de jeu de l'Arlor n'a pas changé avec Luis Enrique. Il a juste ajouté de la vitesse dans les 20 ou 25 derniers mètres qui ont manqué en Russie. Alors que Hierro était un conservateur. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour le...
Oui, c'est un peu tôt. Il y a eu qu'un match. Moi, pour moi, Luis Enrique et Lopetegui, ils sont différents quand même. On n'est pas sur le même style, je trouve. Après, c'est-à-dire que Luis Enrique, son Barça était quand même bien différent. Il aimait quand même pas que la possession stérile quand ça tricotait. Il aimait quand même bien que ça aille vite. Il fallait que ce soit vertical. Lopetegui, comme on vient de le dire, il y avait quand même beaucoup de phases de possession stérile dans ces matchs de qualification.
Ah bah oui, c'est pas
vraiment la philosophie de Luis Enrique, ça.
Ouais, ça manquait, oui, effectivement, ça manquait clairement de vitesse dans le dernier quart du terrain.
Voilà.
Bon, après, c'était...
Après, il n'y a eu qu'un match.
Je pense à la Coupe du Monde, en fait, c'était plus Lopetegui.
Non.
cette image-là de... Non, je ne peux plus penser. Mais match contre la Russie qui était terrible.
Après, on n'est pas non plus dans deux philosophies contraires. Hein. Ils se ressemblent un petit peu quand même, Luis Enrique et Lopetegui. Mais voilà, je vois Lopetegui quand même un peu plus dans la possession. On le voit quand même avec son Real, là, qui a quand même
Ah oui,
ça a changé par rapport à celui de Zidane.
Ça a brutalement changé. Et d'ailleurs, voilà. Luis Enrique, c'était l'effet inverse par rapport à Guardiola. C'est que ça, oui. Il avait pris pour jouer avec plus de verticalité et beaucoup plus de possession.
Bah, on peut mettre fin à la position stérile et
la position de Guardiola. Et pour compléter sur Rodrigo, l'histoire du Funès, effectivement, Viril précise que effectivement, Rodrigo, c'est pas un véritable attaquant de pointe. Tu as toujours besoin d'un pivot pour jouer avec lui. C'est pour ça que
c'est pour Zaza, ça, du coup, qu'on avait dit attaque à deux, effectivement.
C'est pour ça que Zaza était si important. Je ne reviens pas sur l'histoire du transfert avorté de Zaza à l'OM, parce que ça va encore m'énerver.
Non, calme-toi.
Mais si Rodrigo Moreno est aussi avec Valence, c'est un petit peu parce que Zaza l'a un tout petit peu bien fait. Ça.
Oui.
Voilà. C'était pas. Il a un peu mis 13 buts la semaine dernière en Liga. Il a un peu aidé à marquer les. Je ne sais plus, c'est 16 ou 18 de Rodrigo et aussi de Santimina, accessoirement. Voilà.
Mais du coup, toi, tu es d'accord pour dire que du coup, on part plus du coup sur une attaque à deux.
Pour l'instant, il faut voir comment on va replacer, si Isco va être replacé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vois, toi, comme 11 contre la Croatie, notamment devant, parce que moi, j'ai quand même un. Je pense que Aspas Rodrigo, ça peut fonctionner. Mais peut-être pas dans un 4-3-3. Parce que ces deux joueurs-là aiment bien être libres et aller sur les côtés, tandis qu'un autre rôde dans la surface.
Après, tu vois, je pense que Luis Enrique, il va vraiment faire beaucoup de tests. Hein.
Oui,
pourquoi pas tester un 4-4-2 hein.
Oui, effectivement.
Je pense que c'est possible. Là, ben, le Barça, il n'était pas non plus très 4-3-3. Il a parfois changé ses systèmes.
La philosophie
il a fait le 3-4-3. Il a.
Oui, exactement. Ah, je me fais un petit plaisir parce que Riri me rappelle que Rodrigo faisait un très bon duo avec Oscar Cardoso, Tacuara Cardoso, que j'adorais. À une époque, je regardais pas mal Benfica et j'adorais Tacuara Cardoso. Voilà. Donc, c'était si jamais des Portugais qui nous écoutent. Voilà, du SLB. On a aussi discuté hier sur la discussion interne au site d'un joueur emblématique de l'Arlor qui s'appelle Sergio Busquets. Et j'ai pris une position un tout petit peu polémique en disant que moi... Je le mettrais peut-être un petit peu à la retraite. Alors, je précise, parce que j'ai dû faire... Là, les gens du Barça, ils doivent dire il a vrillé. C'est un joueur que j'adore, Busquets. J'ai mis un maillot floqué à son nom. Enfin, il est mal floqué d'ailleurs. Bref, passons. Il y a un U qui s'est transformé en V. Non.
Tu sais qu'il est jeune encore, Busquets. Hein, il a que 30 ans.
Ouais. Mais c'est jeune, 30 ans.
C'est très jeune.
Mais
même pour un footballeur.
Ça fait tellement longtemps qu'on le voit. Dans le sens où Busquets, c'est un immense joueur. C'est peut-être le plus grand. Je pense que c'est le plus grand milieu défensif, le plus complet qu'il y a eu des 15 ou 20 dernières années. Il sait absolument tout faire.
D'accord.
C'est un joueur fabuleux. Mais il a été blessé il y a quelques années et j'ai l'impression que c'est jamais pleinement remis de cette blessure, qu'il n'a jamais pu redevenir l'immense joueur qu'il a été. Alors évidemment, il reste à un niveau exceptionnel, très élevé, parce qu'on parle, voilà, on parle d'un crack. Et je pense que dans la génération dorée du Barça, c'est le dernier monument blaugrana. Voilà, je trouve que c'est un joueur. On en parlera plus tard de Piqué. Je trouve que Busquets est un joueur fabuleux. Mais soit il faut remettre un double pivot, comme tu disais, avec une sorte de Xavi Alonso sur le côté. Là, on pense à Rodri, qui a été sélectionné.
Il en a parlé aujourd'hui, d'ailleurs, Luis Enrique.
Voilà, parce que Rodri a fait une très bonne saison avec l'Atlético. C'est pas pour rien que Simone l'a recruté. Il y a aussi Coca et la sélection. Et Saúl qui jouent plus sur les côtés. Donc, est-ce qu'on les recentrerait? Est-ce qu'aussi, avec Busquets, on ne repasserait pas un 4-4-2 à plat, parce que c'est quand même le truc à la mode en Espagne. Pas oublier que Rubiales, au début, c'était son idée. Il voulait prendre Marcelino Garcia Toral parce qu'il joue en 4-4-2 à plat. Que le système qui marche pas mal avec l'Atlético, c'est 4-4-2 à plat. Et que le Real Madrid a aussi beaucoup de gens en 4-4-2. C'était plus en diamant, mais c'était aussi un 4-4-2. Voilà. Donc, est-ce que Busquets a actuellement les facultés pour jouer avec cette horreur dans un 4-3-3, je pose la question. Ah ouais, c'est hyper compliqué.
Le problème de Busquets, c'est que
je pense que Busquets est partie de la génération du passé. Donc,
oui, parce que toi, tu es partisan de tout changer pour repartir sur une nouvelle base.
Moi, je suis un fou. Mais
je peux être d'accord avec toi, par exemple. Bon, je vais avoir une position aussi polémique, mais voilà. pour moi, je peux être d'accord avec toi quand on parle de Ramos. Ramos, pour moi, s'il avait pris sa retraite internationale, ça aurait pas été un scandale.
Ouais.
Vraiment repartir, parce que Ramos déjà est plus âgé, et pour vraiment repartir, alors que Busquets, on n'est quand même pas, pour moi, on n'est quand même pas au bout de la carrière, la Busquets. Alors oui, on a l'impression qu'il est un petit peu cuit, mais parce que le problème est le même au Barça, un petit peu moins en Espagne, mais il n'a aucun remplaçant. Il joue tout le temps, pratiquement 100% des matchs. Je crois qu'il n'a en fait jamais eu de remplaçant au Barça. Parfois, Mascherano reprenait un petit peu son poste au milieu. On a eu Rakitic, on a eu André Gomez, mais enfin bon, personne, Rakitic un peu mieux, mais André Gomez ne remplaçait pas Busquets. Parfois, en fin de match, Busquets sortait, Paulinho rentrait. Donc ça, mais sinon, Busquets ne peut jamais souffler sur une saison.
Et puis ça se voit quand il joue pas Busquets.
Ah ben ça se voit tout de suite.
Avec le Barça.
Ça se voit tout de suite, mais peut-être que cette année, alors on compte dessus que Valverde fasse un petit peu plus de turnover et que Busquets peut-être soit un peu plus frais autant pour le Barça que pour l'Espagne. Mais c'est compliqué parce que vraiment on a l'impression que Busquets, on a du mal à le remplacer autant en Espagne que qu'avec le Barça. Alors là maintenant il y a Rodri, mais c'est vrai que même il y a quelques temps c'est compliqué de remplacer Busquets. Il est quand même un petit peu irremplaçable.
Avec la Roja, tu peux alors. Compliqué. Est-ce que tu repars sur un cycle de 4 ans avec Busquets ou un cycle de 2 ans est-ce que Busquets
oui,
aussi
peut pas ans, après,
Busquets peut prendre central aussi. Hein. Busquets il peut jouer central après l'Euro 2020. Il a déjà joué avec le défenseur central avec le Barça quand il y a eu pénurie. Est-ce que parce que moi je pense que des joueurs comme Rodri, des joueurs qui tapent à la porte comme il y a Zubeldia, il y a Fornals, il y a Carlos Soler qui joue sur un côté mais qui un jour ou l'autre va être complètement axial. Je pense qu'il remplacera par les pro d'ici un ou deux ans. Voilà, est-ce que Saoul peut jouer dans l'axe, Coquet peut jouer dans l'axe.
Après, s'il y avait vraiment un joueur qui sortait du lot et que je me disais bon, lui, il peut prendre la place de Busquets, d'accord. Mais là, à part Rodri et encore, faudrait quand même un peu voir parce qu'il vient d'arriver en sélection. Il n'y a pas un joueur où je me dis bon, lui, il est prêt pour remplacer Busquets.
Ah justement, faire un double pivot.
On peut préparer pour dans 2 ans, oui. Pour après l'Euro. Préparer, pourquoi pas. Pour après, peut-être que de lui-même, Busquets aura envie de prendre sa retraite après l'Euro 2020. Mais là, tout de suite, j'aurais du mal à me dire, on se passe de Busquets.
Ouais, mais c'est. Moi, je suis toujours. Quand on demande des renouvellements de génération, je serais toujours plus enclin à tout couper. Mais en même temps, je regardais Ramos, donc je suis complètement. J'assume totalement ce paradoxe.
Mais parce que si tu pars par là, la défense centrale, c'est quand même un chantier aussi.
Justement, tu voulais en parler, et notamment d'un certain Gérard Piqué. Il y a un tweet que tu as sorti qui était très amusant. Ce serait le moment de c'est la faute de Piqué.
Ouais.
Donc voilà, c'est Nacho qui a été titularisé.
Parce que toutes ces dernières années, à chaque fois que l'Espagne prenait un but, c'était toujours la faute de Piqué.
Sa faute.
Bien sûr.
Même si c'était quand même souvent sa faute.
Ça arrive, oui.
Mais là aussi, la semaine dernière aussi, avec Elias et Benjamin, moi, j'aurais peut-être pas spécialement repris Nacho, alors que c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est toujours là pour pallier, mais dans la mesure où tu as Azpilicueta qui fait le même boulot,
c'est ça.
Autant chercher quelqu'un d'autre que Nacho.
En fait, si tu veux, pour moi, Nacho.
La semaine dernière, en plus, j'ai trouvé.
Nacho égale Sergio Roberto. Alors, je vais développer. C'est-à-dire que non, mais c'est pour te dire qu'en gros Nacho et Sergio Roberto, pour moi c'est un peu le même style de joueur, c'est un peu les couteaux suisses. Ils peuvent jouer à beaucoup de postes. Donc Nacho, il peut faire tous les postes de la défense. Sergio Roberto, il a joué à 8 postes différents au Barça. Ils sont tous les deux très aimés de leur club parce qu'ils ont été formés dans leur club respectif. Mais ils déçoivent rarement. Au final, on se dit jamais Nacho, il a fait un très mauvais match. Sergio Roberto, il a fait un très mauvais match. Ils font le job à chaque fois, mais il y a mieux en fait. Autant Sergio Roberto que Nacho, il y a mieux en défense centrale que Nacho et il y a mieux en latéral et en milieu que Sergio Roberto. On comprend pas pourquoi ils sont là en fait.
Bah c'est leur polyvalence à la fois.
Voilà, c'est leur polyvalence. Mais on peut pas n'avoir que des joueurs polyvalents, il faut aussi des spécialistes.
Bah c'est ça, c'est que leur polyvalence c'est un atout pour rentrer dans la sélection, mais c'est aussi un problème pour la sélection parce que là c'est franchement le but de Larloch, il est 2 ou 3 mètres en retard. Enfin vraiment c'est. Il n'est pas bien placé. Alors bon, après, je joue peut-être Sergio Ramos, ce n'est pas toujours facile.
Non.
Il ne faut pas non plus mentir. Voilà, mais toi, à choisir, tu aurais plutôt gardé Piqué et sorti Ramos. Du coup.
Ah non, mais je n'aurais pas spécialement gardé Piqué. Hein. Je Que Piqué ait pris sa retraite internationale, je trouve pas ça aberrant. Mais j'aurais pas pris Nacho pour faire la doublette avec Ramos. Après, je pense que Luis Enrique va faire des tests parce que quand on regarde la liste, il y a 6 défenseurs centrales dans sa liste.
Apparemment, celui qui va être titulaire, alors celui qui est titulaire avec l'Atlético en fin de semaine, je contre le Real Madrid. C'est Inigo Martinez qui est rentré latéral gauche, qui n'a pas joué un match de la saison. Tu le verrais titulaire. Alors, moi, j'ai très peur s'il le met titulaire parce qu'il pourrait se casser en deux. Alors là,
l'Atlético. Inigo Martinez, ben, il a pas joué encore.
Ben non, il n'a pas fait de la saison.
Ah, c'est ça.
20 minutes, il a disputé avec l'Espagne.
C'est ça.
Est-ce que tu le verrais aux côtés de Ramos ? Est-ce que tu verrais quelqu'un d'autre comme, par exemple, Aspilicueta ?
Moi, je tenterais bien Aspilicueta, personnellement. Parce qu'il est toujours là et au final, est-ce qu'il a vraiment eu une fois sa chance vraiment à Aspilicueta ?
Pas réellement.
Au final, pas réellement. Il est là, il est toujours pris, ça c'est sûr, il est toujours là. Alors c'est vrai qu'on le voit plus dans une défense à 3, Aspilicueta, on en avait parlé, mais pourquoi pas le tester ? Au final, il n'a jamais vraiment eu sa chance et moi je pense que c'est le moment de lui donner. Là, quand je vois la liste sous les yeux, je me dis qui devrait avoir sa chance ? Je me dis Aspi. Ben, j'aimerais bien qu'il teste.
Déjà, Aspi, je trouve qu'il y a toujours une très grande intelligence tactique.
Ah oui.
Je trouve que ça manque beaucoup, notamment au capitaine. Non, mais je ne vais pas me répéter encore, mais Ramos a beaucoup de qualité, une intelligence tactique, c'est pas trop ça.
Mais Ramos a beaucoup de qualité, mais il faut aussi lui mettre à côté de lui quelqu'un qui va un petit peu gommer ses défauts. Et ouais. Nacho et Ramos, je trouve qu'ils font pas la paire au final. Il lui faut quelqu'un qui soit, il faut à côté de Ramos quelqu'un qui soit voilà intelligent au niveau pour la première relance aussi, pour les transitions défensives parce que il y a un peu de mal quand même au final à passer le premier rideau. Et moi je pense qu'Aspilicueta ce serait bien de tester. Je pense qu'il a ces qualités là du coup pour faire une bonne paire avec Sergio Ramos.
Oui puis oui c'est vrai que c'est un très bon joueur de foot donc oui. C'est vrai que C'est bizarre que ce soit jamais plébiscité à Aspilicueta, alors qu'il fait vraiment une belle carrière.
Mais on n'y pense pas assez. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'il joue en Angleterre et du coup on a plus tendance à penser aux joueurs qui jouent en Espagne. Mais vraiment, moi, Aspilicueta, j'aimerais vraiment que pour une fois on le teste vraiment.
Et côté gauche, ah oui, bon, envers toute l'équipe. Oui. Alors moi, pour moi, De Gea, c'était non. Donc voilà, pour moi c'était Kepa titulaire. Voilà. Est-ce que Kepa d'ailleurs pourrait être titulaire contre la Croatie ?
Moi je pense que ce serait bien qu'il le mette titulaire.
Personnellement, je le mettrais. Ça éviterait d'avoir une situation comme la dernière Coupe du Monde.
Oui.
Parce que c'était quand même très. Parce qu'il s'est passé. Là aussi, c'était. On avait parlé. C'était l'ambianceur de service Pepe Reina.
Ben oui.
Mais à la fin, tu pouvais pas le mettre. Donc c'est ce qui s'est passé pour l'Argentine par exemple qui a été contraint de mettre de changer de gardien parce que Romero s'était blessé, ils ont mis Caballero qui était cuit voilà donc après ils ont mis Armani qui s'est retrouvé là et l'Espagne ne pouvait pas le faire et aussi
moi tu vois je réunissais pas tout de suite tu vois dès là le premier match
ouais, moi aussi mais ça aurait peut-être sapé aussi
ou un petit peu oui après c'est une question de morale aussi par rapport mais là aussi tu sapes un petit peu le moral de Kepa dans le sens où t'auras jamais ta chance quoi que fasse De Gea donc ça peut marcher dans les deux sens.
Il fait un gros match De Gea mais bon c'est
oui,
un peu
au final,
c'est
il fait un bon match
il le fait 2 mois trop tard son gros match c'est autre chose mais oui Kepa mérité après troisième gardien c'est Paolo Lopez moi j'aurais plutôt mis Asenjo mais
oui, moi aussi
mais tiens d'ailleurs c'est amusant ce qui se passait avec Areola les gens ont découvert qu'Areola est un bon gardien. Juste, c'est quelqu'un qui a été plus qu'un concurrent sérieux pour Asenjo à Villarreal.
Ah oui.
Il avait sauté Asenjo et
Asenjo. Et extrêmement aimé à Villarreal.
C'est vraiment une référence en Espagne. Ouais. Asenjo, c'est vraiment un excellent gardien. Donc, qu'il soit. Après, les ambiances. Après, il ne faut pas confondre Villarreal. Pour les gens qui sont déjà allés à Villarreal, ils savent, mais il n'y a rien.
Oui.
50 habitants, il n'y a rien. Il y a le stade et c'est tout. Quoi. Donc, la pression est quand même très, très différente. Quoi. Il y a aussi cette notion-là et c'est pas.
Oui, non, il n'y a pas beaucoup de pression à Villarreal, ça c'est
voilà.
Sûr.
Quelqu'un comme.
On ne peut pas non plus lui enlever la saison qu'il a fait.
Ah oui, non. Donc voilà. C'est une petite aparté parce que j'aime beaucoup ça. Voilà. Après en centrale, donc on l'a dit en défense, on a dit Ramos et Aspilicueta. À droite, Carvajal, je pense.
Oui, bah, Carvajal, je pense que c'est l'un des. Il n'y en a pas beaucoup qui sont indiscutables, mais Carvajal.
On va être très clair, c'est le meilleur latéral.
Voilà.
Voilà. Top 3 mondiaux depuis assez longtemps.
Oui.
Moi j'aime beaucoup les joueurs. Moi, mon style latéral, c'était Arbeloa.
Oh mon Dieu.
Voilà, ouais, je sais, je sais, je sais. Donc voilà, et puis à gauche, donc il n'y a pas ton chouchou aujourd'hui, Alba.
Ouais, bah j'essaierai bien Gaïa du coup.
Aïe, 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 pardon.
Ah bah faut bien essayer, il est là.
Oui. Non, mais ça me fait
Si tu
toujours
prends
rire.
des joueurs pour pas
Non,
les
mais ça me fait
essayer, ça
toujours.
sert à rien.
Mais c'est parce que c'est des joueurs que je vois beaucoup trop et que
Ah bah oui.
je me dis,
Non,
bon.
mais après sur le premier match, Alonso a pas fait un mauvais match.
Oui, tu fais tourner, t'as raison. Oui.
Il n'a pas fait un mauvais match. Alors après, je trouve qu'on est loin de Jordi Alba, mais en même temps, c'était son premier match. On va pas non plus avoir si Alba récupère sa place ou pas. Busquets en a parlé en conférence de presse aujourd'hui. Lui, il est plutôt optimiste sur un retour de Jordi Alba, visiblement. À voir si lui, il arrive un petit peu à régler les conflits entre Luis Enrique et Jordi Alba.
Tu penses qu'il y a encore un passif entre les deux parce que Jordi Alba a milité pour Luis Enrique.
Oui, mais je pense qu'il y a un passif, oui. Et autant entre Luis Enrique et Jordi Alba qu'entre Luis Enrique et Marc Bartra, d'ailleurs, hein, qui lui aussi, du coup, n'y est pas. Mais je ne perds pas espoir que Luis Enrique change d'avis et les sélectionne parce que je pense qu'il va faire quand même une large revue d'effectifs. Donc pourquoi pas, mais l'absence de Jordi Alba, elle est un petit peu inexplicable. Elle est un petit peu inexplicable du point de vue des performances. Donc pour moi, il y a forcément une question de relation, de relationnel.
Après, toujours cette crainte d'une blessure, parce que Jordi Alba, il est quand même régulier à l'infirmerie. Ce sont des petits
Ouais.
soucis. Après, c'est une première liste, parce qu'il a voulu prendre aussi.
Oui, je pense vraiment qu'il va faire une revue. Il a pris, je rappelle, il a pris 6 défenseurs centrales. Je pense que vraiment, il va vouloir tester. Hein.
Ouais. Après, oui, moi, je trouve, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, il m'en Bartra.
D'ailleurs, il va même
Donc,
peut-être
Bartra,
mettre
parce que.
Albiol à Azpilicueta en défense centrale.
Ah oui, ah ben oui. D'ailleurs, si vous vous intéressez au cas Raúl Albiol, Benjamin Bouchard fait un excellent papier cette semaine. Parce que, alors, Raúl Albiol qui vient de fêter ses 33 ans.
Ouais.
Alors ça aussi, est-ce que c'est le Adil Rami de la sélection espagnole? Bonne question. Parce
Bah, on a un
que.
peu l'impression, hein.
Mais je préfère encore que ce soit un défenseur central plutôt qu'un gars au final qu'un gardien.
Oui.
Mais après, autant, moi, ça c'est le truc des ambianceurs, j'ai jamais compris. Prends 23 joueurs et ramène-le en 24e. Beckham l'avait
On
fait
est invité.
à une Coupe du Monde. Et je crois qu'il s'était blessé. Je sais plus en quelle année c'était. Mais voilà, si tu as besoin de quelqu'un pour faire le lien, pour faire une sorte d'adjoint supplémentaire, prends-le, mais ne le prends pas dans ta sélection si tu ne vas pas le faire jouer et qu'il ne sert à rien. Ça n'a pas de sens de faire
Ben,
ça.
on va voir si du coup au moins il le fait jouer demain.
Oui. Ah, bah déjà, il y a eu la rumeur qu'il aurait pu être titulaire
Oui.
contre l'Angleterre. Donc, déjà, c'était assez étonnant de l'imaginer revenir. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été en sélection. J'ai pas trop l'idée sur son niveau actuel à Naples.
Moi non plus.
Parce que je sais que ça fait 2 ans que De Laurentiis le bloque, parce que Valence, ça fait 2 ans qu'il voudrait le signer.
Oui, visiblement, il aurait pu partir.
C'est ça. Après, il a coûté un petit peu cher aussi pour le club. Après, moi, je vois les centraux de Valence. Sinon, ça, il serait peut-être pas de mal, Albiol, au final. J'ai une bien meilleure opinion, par exemple, d'Albiol que de Victor Ruiz. Victor Ruiz qui pourrait postuler à une place en sélection, d'ailleurs. Parce que, après tout.
Après tout, bon, il y a du monde quand même à tester en défense
Pourquoi
centrale, hein, au
pas?
final.
En fait, oui, on voit souvent à Unai
Il
Núñez.
bat dans les espoirs, en tout cas, il y a
Il y a
Núñez,
aussi Álvarez, il y
il y a
a.
Meret, il y a
Bah, mais.
Valero.
Les ils jouent en D2, donc c'est un peu.
Oui, je sais, mais bon, oui, il y a Cologne, il y a un des deux, mais bon, sur un malentendu.
C'est une valeur sûre. Après, tu as
Il
Balerdi, j'attendais vraiment à mieux. Vraiment. C'est un joueur que.
stagne un peu.
Ouais,
Mais
là, il risque pas de beaucoup jouer parce que autant
voilà, il
Varane.
devrait peut-être être prêté, du coup, ce serait
Ouais.
peut-être.
Autant Varane, à certaines époques, on disait, bon, c'est un peu compliqué pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir. Si jamais la concurrence. De Valère va le gêner. Et puis finalement, bon, bah là,
Ben finalement, oui.
intoquable. Maintenant, il est.
Ouais.
Maintenant, franchement, le mondial de
Et puis
Varane.
il y a Bartra aussi, hein, n'oublions pas Bartra.
Ouais, mais c'est assez étonnant d'ailleurs que. Bon, s'il y a un passif, effectivement, parce
Il y
que
a un petit
Varane,
passif, ouais.
dernier mois en Liga, Je pense qu'il peut limiter.
Bah, sur les derniers mois, il est top 3 des défenseurs centrales, Bartra. Hein.
Si on faisait la prochaine liste de Luis Enrique avec des nouveaux, ouais. Tu as obligation de mettre des nouveaux. Tu prends qui?
À quel poste?
Tous.
Hein?
Enfin, à part gardien, parce que gardien, on l'indiquait pas.
Bah, du coup, en défense, je testerai du coup Bartra. Je testerai Yeray. J'ai bien envie de tester Yeray. Pourquoi pas Nunez, mais bon, il est avec les espoirs. Qui au milieu? Ah, en attaquant, ben Moreno.
Oui.
Il faut le tester. C'est un peu obligatoire.
L'attaque Moreno.
Morales, Moreno.
On parle de Gérard Moreno.
Oui, Gérard Moreno.
Et on salue Nicolas Faure.
Ouais. Et donc, pour Morales, pourquoi pas tester Morales? Ben, Morales Moreno.
Alors, moi, je mettrais…
Fernando.
En défenseur central, ouais, ou la Nunez, je pense. Je vais peut-être chercher… je cherche un autre, mais oui, c'est bon. Lui, c'est vraiment l'évidence.
Oui, un petit peu. Ouais.
C'est vraiment l'évidence.
Nunez Bartra, ça m'irait très bien.
Ah, on n'a pas parlé d'un défenseur qui pourrait jouer, c'est Diego Llorente.
Ah oui, c'est vrai.
Et pour le coup, Diego Llorente, ça fait un moment qu'il est régulier.
Oui, c'est vrai. À la limite, oui, ben Diego Llorente, Azpilicueta.
Voilà. Ah oui, ça serait particulier. au milieu de terrain, Carlos Soler, évidemment.
Ben oui.
Aucun parti pris dans cette supposition.
Non, mais je te suis, Carlos Soler.
Mais Carlos Soler a fait la préparation avec l'Arlora avant le mondial. Donc voilà, il est tout proche. Je pense que les Fornals, ça, c'est aussi une question de temps. Peut-être pas. Ils vont peut-être être vus d'ici l'Euro. Est-ce qu'ils seront à l'Euro? Je ne sais pas. Mais après l'Euro 2020, c'est sûr et certain, deviendront des cadres de la sélection.
Ouais.
Devant, alors, on va mettre un duo basque, Oyarzabal, Iñaki Williams.
Ah ben oui.
Parce que ça fait quand même un moment qu'ils sont bons.
Ça fait un moment qu'on les attend. Et
sachant Iñaki est un peu régressé l'an dernier. Il était un peu moins bon. Il était blessé aussi. Mais Iñaki peut aussi jouer en pointe.
Oui.
D'ailleurs, Berizzo l'utilise en pointe avec la blessure de Thalys Adulis. Donc, pourquoi pas revoir Iñaki Williams. Ben, j'espère qu'il va faire une bonne saison avec Berizzo. Oyarzabal, on va voir. Je pense qu'il a beaucoup gagné Oyarzabal sur le repli défensif avec Garitano. Voilà, moi après, c'est vraiment… J'adore Oyarzabal.
Ça, ah oui, moi aussi.
Donc vraiment, je suis vraiment pas objectif. Gérard Moreno, évidemment. Oui. Qui on pourrait.
Gérard Moreno, on en vient même à se dire quand même que c'est un petit peu obligatoire.
Ah ouais, quand même.
Là, ça fait plusieurs fois qu'on l'attend et il faut le tester quand même.
C'est un joueur, d'une intelligence très rare. Et là, j'espère qu'à Villarreal, il va un peu moins travailler pour toute l'équipe. Et qui va un peu plus penser à lui. Alors, le duo avec Toko et Kambi promet énormément.
Oui, forcément, il va être beaucoup, beaucoup mieux entouré qu'à l'Espagne.
Après, Riril parle de Porto.
Ah oui.
Et oui, Porto, ouais. Alors, pourquoi ça aussi, petit aparté, il faut m'expliquer comment Séville a pas pu aligner 20 millions pour prendre Porto. Alors, surtout, s'en être aperçu le 31 août. Alors, ça, j'ai rien compris à leur truc. Ils mettaient 20 millions tout de suite, ils l'avaient. Il dégageait Muriel, c'était terminé. Vraiment, ça, pas bon. Bon, c'est très étonnant ce que.
Puis du coup, pour la sélection, ça aurait été mieux pour lui du coup d'être à Séville, probablement.
Avec Sacristán, ça a bien joué au foot, je pense.
Ah oui, non, mais j'adore Sacristán, mais je veux dire par rapport à la visibilité, du coup, on aurait peut-être plus pensé à lui.
Alors, tu veux la grosse cote? Je pense que Dylan va finir devant Séville.
Ah, pourquoi pas.
Ça a été proche la saison dernière.
Oui, c'est vrai. Après, Sacristán, des fois, ça peut aussi
se cracher.
Voilà, ça peut aussi se cracher très vite et très fort.
Mais globalement, ils n'ont pas perdu de joueurs, Jelon, il me semble.
Non,
aucun cadre. Ils ont récupéré leur. Ils ont toute leur équipe. Stoan, il porte tout devant. Il y a. Borja García a fait un excellent début de saison. Il a payé la Ponce. Glanel, tout ça. Ouais, non. Effectivement. Oui, Riril précise, oui, c'est Caparros qui a bloqué, je crois. Oui. Parce que oui, Machin, évidemment, le voulait. Hein. D'ailleurs, il voulait Stuani et ou Porto. Donc, il serait peut-être libéré une place pour Ben Yedder dans un autre club. Notamment, je pense à un club du sud de la France ou un club entre Rennes et Sun, qui a pris Moussa Dembélé. Mais je pense qu'il aurait été très bon dans un de ces deux clubs. Ben Yedder, là, c'est quand même dommage qu'un joueur comme ça.
Ben Yedder, on a l'impression qu'il doit toujours regagner sa place. Là.
Ouais, c'est pénible parce que c'est vu les matchs qu'il a fait. Alors évidemment, le match qu'il a fait contre Manchester United, tu fais c'est bon. Maintenant,
c'est clair qu'il est. Mais au final,
il rentre, il plante quoi. Donc.
Mais mentalement, pour lui, ça doit être compliqué. Hein. Mais au final, à chaque fois, il y arrive. Il regagne sa place à chaque fois.
Oui, parce que c'est un excellent joueur de l'OM. Bref, moi je l'aurais bien vu. Je l'aurais beaucoup aimé à l'OM. Mais bon. Une attaque Ben Yedder Zaza. Alors ouais, Mitroglou et tout, mais quand même Ben Yedder, ça m'a.
Ah ben non, Ben Yedder Mitroglou.
Ouais, Ben Yedder Mitroglou, ça aurait été bien. Ouais, effectivement. On se salue Elton Mokolo.
Ah, oui.
Le grand Elton, qui nous parle de Bartra. Est-ce que c'est une solution viable dans une défense à 4 quand on connaît son passif au Barça et à Dortmund? Et lui, il dit que la réponse est dans la question.
Oui, alors, on a déjà eu ce débat d'ailleurs.
C'est toi la spécialiste de Barça, par rapport à moi.
Non, mais Bartra, il peut avoir quand même. Je suis d'accord sur le fait qu'il peut avoir des petits moments des petits moments de flou, hein, des fois, ça lui arrive. Et comme ça arrive aussi à Ramos et comme ça arrive aussi à Piqué, je trouve qu'on est vraiment trop concentré sur ses erreurs à Bartra et on oublie vraiment les qualités qu'il a et les qualités de relance notamment. Et vraiment. Et je reviens du coup sur le problème que je vois un peu de cette Espagne de passer le premier rideau entre la défense et le milieu. Et Bartra, pour moi, ce serait vraiment un bon point pour sur ce défaut-là qu'a la sélection. Au niveau relance, je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux qu'il y a en Espagne. L'un des meilleurs défenseurs centraux, pardon. Moi, je pense quand même qu'il faut tester. Voilà. Et au final, depuis qu'il est au Betis, il n'a jamais déçu.
Mais c'est un sacré paradoxe, Bartra, parce qu'à une époque, il ne joue absolument pas ou vraiment très peu au Barça. Il est toujours sélectionné.
C'est vrai.
Et il revient, il joue, il a stabilisé le Betis. Et il est déjà qu'il ne soit pas au Mondial. Déjà, c'était très chaud. Mais c'est assez. Lui, il a vraiment une carrière particulière avec la sélection.
C'est vrai. Mais Bartra,
j'ai bien râlé à le voir en sélection à chaque fois. Donc,
on est vraiment trop concentré sur ses défauts. C'est-à-dire, si je reste concentré sur les défauts de Sergio Ramos, je veux dire, il ne mérite pas non plus d'être avalé à la sélection si on part par là. Hein. Enfin, j'exagère un petit peu.
Si on part par là, il faut dire la vérité, le niveau défensif du football a énormément régressé au cours des 20 dernières années. Donc. Je suis assez critique par rapport au football.
Et puis honnêtement, sur le papier, alors après bien sûr le papier n'est pas la réalité, mais sur le papier, si on me dit un défenseur central qui est vraiment complémentaire de Sergio Ramos, je pense tout de suite à Marc Bartra. Pour moi, ils sont vraiment complémentaires. Chacun a les qualités des défauts de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais oui, effectivement. Mais il va falloir ce sujet de la défense centrale, ça fait un petit moment que ça traîne parce que il y avait ces deux totems qui étaient vraiment assez piqués qu'on n'a pas voulu toucher. Moi, je franchement, ça fait des années qu'on pouvait douter de leur association. Moi, je trouve que ça collait absolument pas. Donc,
alors sur le papier, oui, tu vois, bizarrement, comme quoi.
Ils ont gagné l'Euro 2012 ensemble.
Oui, ils ont gagné l'Euro ensemble.
Mais depuis, il y a eu trois compétitions qui ont été complètement ratées. Et
moi, oui, mais c'était pas les seules. C'était le niveau global de l'équipe quand même.
Évidemment, mais c'est quand même. Mais je pense que si ta défense centrale est pas bonne, tu peux pas avancer. Tu peux pas. C'est impossible de gagner une compétition si t'as pas ta défense centrale qui veut mieux avoir des latéraux pas terribles qui restent un peu derrière. Mais si t'as pas de charnière, c'est mort, c'est impossible. T'as pas une bonne charnière et un bon 6, c'est cramé. Donc là, en l'espèce, la charnière centrale, ça fait trois compétitions qu'elle ne marchait pas. Bon, déjà, au bout de deux, tu peux te poser la question. Là, troisième,
ça dépend aussi du nombre de fois où ils sont mis en difficulté dans un match. On sait que Piqué, par exemple, son défaut numéro un, c'est la vitesse. Si tu commences aussi à laisser Piqué comme ça aussi souvent en un contre un, au duel ou au duel en vitesse, c'est sûr que forcément, forcément, il va se passer quelque chose. C'est très bien que forcément, et c'est pareil avec le Barça d'ailleurs. Aussi, il y avait un souci, dans le souci de cette Espagne, c'était aussi qu'il y avait un problème par rapport au pressing. Le pressing n'était pas aussi bon qu'on a pu le voir quelques années en arrière. Et chaque perte de ballon devient une catastrophe. Et Piqué, par exemple, n'était pas du tout prêt dans ce genre de situation-là. Lui, c'est pas ce style de défenseur-là. Alors Ramos, lui, arrivait toujours à revenir dans ses zoos pour tacler ou empêcher quelque chose. Mais au final, Piqué, lui, il est pas fait pour défendre comme ça.
C'est vrai que Ramos, au niveau du leadership, il est… C'est...
Voilà, Ramos, tu le gardes parce que tu sais très bien qu'il va t'apporter ça, mais il faut quand même lui mettre quelqu'un à côté de lui qui sait faire ce que lui ne sait pas faire.
C'est-à-dire, oui. Bref. Voilà. On va terminer ce podcast avec un mot sur la presse espagnole qui s'enflamme joyeusement après ce match contre l'Angleterre. Alors, on a parlé de deux choses dans la presse. C'était la débarcelonisation de l'équipe, avec c'est juste Busquets dans le 11, je crois, jouer avec le Barça.
Oui, il y a juste Busquets et Sergio Roberto était voilà.
En Barça. Et ce qui est assez étrange pour un ancien entraîneur du Barça, qui a aussi joué pour le Real Madrid, mais oui. Il est beaucoup plus marqué Barça, Luis Enrique. Et
en même temps, tu veux qu'il prenne qui du Barça.
C'est aussi très, c'est vrai. Et c'est aussi très régulier dans en Espagne, c'est que tout de suite ça c'est les montagnes russes. Et là, c'est reparti après la victoire. C'est
on est la meilleure équipe du monde.
Qu'est-ce que ça joue mieux. Ça y est, c'est reparti. Et comment dire.
Déjà, bah, c'est la presse espagnole.
C'est un peu tôt, mais c'est tellement habituel. Moi, je me rappelle du match contre la République tchèque en 2016, le premier match de l'Euro avec le but de Piqué justement en fin de match.
Oui.
Match. Moi, je les avais trouvé. J'avais trouvé pas terrible.
Non, on n'avait pas été terrible. Très bon.
Et d'ailleurs, ce match-là, j'ai vu dans le bar de Manolo, El Del Bombo.
Ah.
Voilà. Et donc, c'était marrant parce que tu lui parlais à le supporter numéro un de l'Espagne. C'est Clément d'Antibes, mais en sympathique, pour donner une idée aux gens. Et donc, tout de suite, c'était reparti. Ça y est, on va gagner l'Euro. Ouais, 2014, c'était rien. C'était juste, ça arrive, vous allez voir et tout. Moi, j'ai trouvé le match assez quelconque. Et après, évidemment, ils étaient retombés de haut en Espagne parce que pour eux, ils étaient lancés droit vers la coupe. Et là, encore une fois, c'est regardez comme ça joue mieux, regardez comment on est reparti. Moi, je trouve pas que l'Angleterre a quand même progressé, mais c'est pas non. Enfin, c'est une équipe qui est assez jeune. Voilà, il y a quand même plus d'expérience avec l'Espagne.
Je crois que je n'avais pas vu jouer l'Angleterre depuis l'époque de Lampard.
Pour moi, la dernière bonne Angleterre, c'est de 96. Donc, voilà.
Non, mais moi, je ne les avais pas vu jouer depuis Lampard déjà. Donc, j'ai trouvé que…
Pendant le Mondial, moi, je trouve quand même que pendant le Mondial, c'était assez surévalué. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Ils sont arrivés en demi, mais moi, je trouve que déjà cette Coupe du Monde-là était très faible. Déjà, si la France a gagné, c'est que le Mondial était très faible. C'est pas une critique par rapport à l'équipe de France. Le problème de la Coupe du Monde, c'est que l'équipe de France a gagné, c'est que cette équipe de France-là était meilleure que les autres. Hein, parce qu'il n'y avait rien de fabuleux. Hein, c'était vraiment le basique du football. Hein. Donc le problème, c'était pas quand ça a critiqué l'équipe de France parce qu'elle avait gagné.
Non, il n'y a pas à critiquer l'équipe de France.
Si cette équipe-là a gagné, c'est qu'il y a un problème au niveau global. Hein.
Les autres qui ont un problème.
Donc voilà, après, l'Espagne a quand même l'habitude de repartir. Et là, ce qui est assez amusant aussi, c'est que la presse catalane s'y met.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire.
Comme Luis Enrique, c'est le Barça. Tout le monde est d'accord pour dire que l'Espagne est devenue une équipasse et que c'est la marche en avant.
La presse catalane est contente parce que c'est Luis Enrique qui est à la tête de l'équipe et la presse madrilène est très contente parce que maintenant, il y a plus de joueurs madrilènes que de joueurs du Barça. Donc, tout le monde est content. Et puis, du coup, on se réjouit sur un seul match. Enfin, bon, c'est bien trop tôt pour tirer des conclusions. Mais bon, c'est l'Espagne. On a l'habitude de l'enflammade.
Oui, après, il y a quand même des moments où c'était pas seulement cadré. Alors, c'est des matchs de début de saison. Alors, évidemment, c'est un peu, voilà. Mais il y a quand même. Oui, c'est un peu disproportionné le côté. Parce qu'il faut quand même. Ça fait quand même la troisième compétition consécutive. Que l'Espagne rate. Et là, oui. Il faut aussi Moi, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait un peu oublier la période dorée parce que ce qu'a fait l'Espagne, c'est inédit dans l'histoire du football. Et il n'y a plus de génération dorée au Barça, déjà. Donc, ça pose quand même. C'était quand même c'est une génération très marquée, Barça dans le contrôle du ballon. Il y a eu, même pour le Barça, il y a eu un avant et un après Xavi Hernandez.
Donc, déjà, oui. Ça a été,
Ça a été.
Il est toujours pas remplacé. Hein.
Déjà, la Coupe du Monde 2014, c'est la fin de. Ouais. La fin de Xavi. Ah, Riril 28, non, je suis désolé, 94, c'est une très bonne Coupe du Monde. Je suis désolé. C'est la première que j'ai vue. J'ai un excellent. 94, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. C'est une des dernières Coupes du Monde où tu as eu autant de stars ensemble. Tu as eu Maradona, Romario, Stoichkov, Hadji, Baggio.
Je ne me souviens pas.
Et oui, mais c'est le privilège de l'âge. Je peux même te sortir. Oui, Thomas Brolin avec la Suède. Vraiment, je crois que c'est le plus gros plateau qu'il y ait jamais eu sur une Coupe du Monde depuis très très longtemps.
La première Coupe du Monde dont je me souviens, c'est 2002. Alors, c'est moins
sympa. Ça a été infâme.
Surtout pour l'Espagne.
Oui. Comme je suis pour l'Italie, en sélection. Ouais. Le combat est le même. Mais 94-98, c'est un peu les dernières compètes où c'est un peu chicoreux. Il y avait beaucoup moins de matchs. Il y avait quand même de grosses stars. 94, après, peut-être la première, donc du coup, on a meilleur souvenir. C'est un Klinsmann aussi. Klinsmann avec. Voilà, si quand on parle de grand buteur, Jürgen Klinsmann, qui était un plus grand attaquant qu'il n'avait été entraîneur. C'est vrai que bon, après. Est-ce que cette génération-là, il faut clairement oublier, comme la France a dû oublier aussi la génération Platini pour retrouver une génération Zidane, comme après il a fallu pour retrouver la génération Griezmann Mbappé. Ça prend du temps. En France, généralement, ça dure à peu près 20 ans.
20 ans, oui.
Voilà, donc fin Platini, France arrive en 87. Non, même 10 ans, j'ai une bêtise. 10 ans, c'est très court. Et puis, il a fallu 20 ans pour avoir les successeurs. Donc, 15-20 ans, donc l'Espagne, ça va être. Même si l'Espagne a quand même un vivier assez impressionnant et que tous fabriqués dans le même moule aussi. Donc.
Mais sur le papier, on n'est pas trop inquiet au final quand on voit les noms. Quand on voit les noms qui arrivent, même quand on voit la sélection espoir. La sélection espoir, elle est impressionnante quand même.
Franchement, je suis plus impressionné par la sous-21 que par l'absoluta personnellement.
Voilà, donc au final, c'est pas trop inquiet, mais encore faut-il.
Impressionnant.
Ouais. Encore faut-il réussir à faire une équipe. Toujours oui. Pareil.
Alors, Elton qui nous dit, est-ce que quelque part, c'est pas le retour pour le futur en ce qui concerne la Roja avec une liste très diverse comme à l'Euro 2008 sans avoir un courant blaugrana?
Avec Marcos Senna. Oui.
Pourquoi tu coupes mes phrases?
Parce que j'avais envie de le dire.
Mais oui, Marcos Senna qui est d'ailleurs retourné à Villarreal. Oui, dans les joueurs que je veux revoir en sélection, Santi Cazorla. Je veux revoir Santi Cazorla avec un Wallon Espagne. 33 ans, je m'en fous. Je m'en fous, il court plus, je m'en fous.
Tu veux le revoir pour venir juste pour faire une revue d'effectifs ou tu veux jouer l'Euro?
Si on prend les mecs sympas et tu prends Albiol, franchement, tu peux prendre Cazorla. Hein,
oui, non, c'est sûr. Après, mais il revient juste Cazorla.
J'aimerais revoir Juan Mata aussi. Mais Juan Mata, c'est bon. Bref, je me lance pas sur ce que je pense de Mourinho. Quand tu arrives à sacrifier un mec comme Juan Mata, c'est qu'il y a quand même un gros, gros, gros souci.
On va pas se lancer sur Mourinho à 20h49. Hein.
Alors, RMCFEBC64, heureusement qu'il n'y a pas le joueur de Retafe comme en 2008. Et j'ai un trou. C'est pas Pernia qui est de Retafe en 2008
Non.
Ouais, c'est parce que je joue Atlético Pernia. Il y a une colle, ça m'énerve, il faut que je trouve. 2008. Est-ce que tu peux me ressortir le nom, cher RMC 64. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
C'est pas Ruben.
J'ai fait un quiz.
Ruben de l'Arrête.
Peut-être,
oui. Et oui, il était
arrêté. Ah oui, Ruben de l'Arrête.
Ouais. Mais oui.
Et maintenant.
Il était bien à l'Euro, lui, si je me rends. Oui. Pratiquement pur.
Dani Guissa?
Aussi.
Oh là là. Mais 2008, c'est pas l'année où ils font une demi, ils font pas un quart de Coupe d'Europe contre le Bayern aussi. Oh là là. Vous nous posez des calls, on est à froid là en plus. Ouais, Pernia, c'est 2006. Merci. Qui a joué notamment à Huelva. Si ma mémoire est bonne. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des joueurs de Getafe. Mais Getafe est un club à voir d'ailleurs depuis la saison dernière. Donc, c'est moi, c'est reste des casseurs de jambes. Ouais, voilà, c'est bien Robin de la Red. Merci.
Ah,
voilà. Robin de la Red qui, je crois qu'il est toujours entraîneur dans les classes inférieures du Real, il me semble. Il est surtout consultant pour la Liga TV. Alors, voilà. Moi, j'aime bien Robin de la Red comme consultant. Et puis, c'était un sacré joueur de ballon. Pour moi, Robin de la Red, il est plus étiqueté Real Madrid que Getafe. C'est pour ça.
C'est pour ça que tu t'en souvenais pas. Et moi, je m'en souvenais bizarrement, tu vois, de lui.
Ouais, c'est vrai que.
Avec le moment de la célébration.
Ah, lui, c'est vrai qu'il a une.
En fait, je t'avoue que je m'en souviens parce que j'ai revu la finale il y a pas longtemps, c'est pour ça.
Ah, d'accord. Ouais, mais c'était lui, c'est vraiment une carrière gâchée parce que il a eu un problème cardiaque.
Oui.
Et c'était vraiment un très très bon joueur de ballon, Robin de la Red. Effectivement, Robin du réseau, pour le traduire en français. Je crois qu'on a fait le tour. De ce match. Alors, je fais une dédicace à Chloé qui va peut-être nous écouter depuis le Vanda Metropolitano, ce qui est à Rayo Majadahonda Lugo. Donc, je crois qu'il y a 1-0 pour le Rayo Majadahonda. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui vient du Real Madrid qui est titulaire ce soir. C'est un certain Enzo Zidane, voilà, qui est titulaire en deuxième division avec le promu. Un club qui est connu notamment pour avoir fait sortir de ses rangs Pepe Reina et Théo et Lucas Hernandez. C'est pas mal, ils ont sorti deux champions du monde sur les trois dernières éditions. C'est plutôt convenable comme bilan.
Il y a 1-0 à la mi-temps.
Voilà. Ouais. Donc, je crois que c'est Aitor qui a marqué. Voilà. Donc, j'espère qu'ils ne se sentent pas trop seuls parce que c'est très amusant. C'est un match donc il n'y a personne au stade. Quoi. Le stade est très grand et absolument personne. Donc c'est un peu le why dans les stades à Madrid en ce moment puisque
oui avec le Rayo
ils cassent les deux Rayos, alors Rayo Majadahonda ils agrandissent pour être au standard seconde division parce que c'est la première fois qu'ils montent et Rayo Vallecano parce qu'au stade menace de s'effondrer. Et d'ailleurs il y a un excellent article de Benjamin Bruchier encore une fois qui est sorti la semaine dernière sur ce qui se passe à Vallecas. C'est un stade qui a son charme, mais qui est vraiment qui est en décrépitude.
Oui, donc, quand on passe devant, on s'en rend compte.
Voilà, est-ce que oui. Alors, il est en pente. Enfin bon, voilà. Ouais. C'est absolument très bonne buvette. En revanche, je pense.
Je suis pas allé à la buvette.
Ah ouais. C'est-à-dire il y a un bar à l'intérieur du stade. Voilà. Donc avec beaucoup d'écrans télé. Voilà. Donc mais bon, avec le président Bressa, on n'est jamais à une bêtise près. Donc voilà. Bon, on va se quitter. Merci pour ce tête-à-tête, Tracy.
Merci à toi.
Vous pouvez nous suivre sur fourialiga.fr tous les jours. Nous avons des publications sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur YouTube. On sort souvent des vidéos. D'ailleurs, vidéo Tracy il y a une dizaine de jours sur Gérard Piqué, que je vous conseille d'aller voir. Et puis pour nous. On va poster le podcast là en direct sur YouTube dès la fin. Ce sera disponible sur iTunes et sur différentes plateformes pour télécharger sur tablette et mobile. Ça, c'est Benjamin qui s'en occupe, notre master of ceremony. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de la nouvelle journée de Liga.
Avec des belles affiches.
Avec un petit Athletic Real Madrid. Qui va valoir le coup d'œil. Donc j'ai pas la liste, mais
il y a le fameux le toujours très périlleux déplacement du Barça à la Real.
Ah oui, oui. La dernière, ça a été un super match.
Oui.
C'était un super match.
J'avais enfin réussi à gagner.
Avec un très grand match de William José et de Messi. Oui. C'est ma mémoire bonne. C'était en fin de. C'était en fin
avec
de saison.
Avec Paulinho et Gomez titulaires.
Voilà.
Je m'en souviens bien.
Ça c'est la génération d'heureux du Barça. Ça c'est le Barça qu'on aime.
Ah oui, ça c'est le vrai Barça.
Ça c'est le Barça qu'on aime. Bon, encore André Gomes, on peut discuter sur ce, parce que lui, c'est plutôt un manque d'adaptation à la pression.
Oui.
Paulinho, là on parle du gros œuvre, on parle du BTP. Là, c'est ce que
le Barça. Ça n'aura duré qu'un an.
Ouais, lui, Paulinho, ça a duré 3 mois. Il était précieux pendant 3 mois et après, on s'est rendu compte que. Voilà. Bref. On se dit à la semaine prochaine, lundi 20h, comme d'habitude. Allez. Hasta luego. Ciao. Adeo.
Ciao.